Je voudrais ce soir introduire un peu ce livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un livre étonnant et énigmatique, un livre qui a suscité et qui suscite des réactions diverses, les réactions les plus diverses, des réactions de satisfaction et aussi des réactions de déception. Avec son voisin dans la liste des livres de la Bible, avec son voisin le Cantique des Cantiques, il possède cette particularité de trancher fortement sur l'ensemble des livres de la Bible. Et le fidèle qui feuillette sa Bible et qui tombe par hasard sur l'Ecclésiaste ou sur le Cantique des Cantiques, pour l'instant nous nous limitons à l'Ecclésiaste, ce fidèle peut être surpris, dépaysé, voire même choqué. Peut-être ne cherchera-t-il pas à aller jusqu'au bout de ces interrogations, des interrogations qui sont suscitées chez lui par la lecture des phrases ou des paroles qu'il a lues, et qu'il n'essaiera pas de comprendre vraiment quelle est la fonction de ce livre dans la Bible et pourquoi il se trouve là. Et c'est ce que nous voulons essayer de faire. Car ce livre est bien à sa place dans la Bible. J'en suis persuadé par la confiance que j'ai dans la providence de Dieu qui, non seulement a chargé des hommes de transmettre sa parole, mais a aussi veillé pour que cette parole nous soit fidèlement transmise et qu'elle puisse aussi nous atteindre. Et j'en suis aussi persuadé par l'étude du livre d'Ecclésiaste, qui est un livre tout à fait passionnant. Pour introduire l'étude des thèmes principaux de ce livre, je voudrais présenter ce livre de l'Ecclésiaste, c'est écrit sous la forme de trois énigmes. L'énigme du nom, l'énigme de la structure de ce livre et l'énigme du sens de ce livre. Et d'abord, l'énigme du nom. C'est la première énigme à laquelle fait face le lecteur. Il se trouve en face d'un nom qui est bien difficile à comprendre et à interpréter. Le nom que se donne l'auteur et qui a été par suite donné à son livre est un nom mystérieux qu'on ne rencontre nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament et nulle part ailleurs dans les textes hébreux que nous possédons. Ce nom, c'est le nom Kohelet que l'on trouve dans certaines éditions modernes de la Bible, en particulier dans la Tobe, alors que dans d'autres éditions plus anciennes, on a le nom l'Ecclésiaste. Ce nom Kohelet n'est pas un nom absolument opaque, car il se rattache très vraisemblablement à une racine qui est bien connue, qui est la racine Kahal, et qui signifie assembler, rassembler. La Kahal, le Kahal, c'est l'assemblée d'Israël, une assemblée religieuse qui a été réunie dans le désert et qui par la suite a été réunie aussi dans de grandes occasions, lorsque par exemple dans le livre des juges il a été question de prendre une sanction contre une tribu, lorsqu'il s'est agi aussi de dédicacer le temple qui avait été construit par Salomon, également lors des grands mouvements religieux du royaume de Juda, à l'époque des rois Ézéchias ou des rois Josias, il est question de cette assemblée d'Israël. Également, on la rencontre après l'exil. Et si vous voulez, l'assemblée serait à Israël ce qu'est le congrès au GBU. Donc c'est une racine, cette racine Kaal est une racine qui est très employée, aussi bien le verbe que le substantif. Mais, quel est le sens de cette dérivation, Kohelet, cette dérivation de Kaal? Le sens est assez difficile à déterminer, d'autant plus que l'auteur, Kohelet, n'emploie jamais la racine Kaal en dehors de ce titre, Kohelet. C'est une dérivation féminine, et il semble bien que ce féminin pourrait désigner une fonction. Et ainsi, en grec, on la traduit ecclésiastès, qui désigne, ce titre d'ecclésiastès désigne un membre de l'assemblée du peuple, ou une personne qui prend la parole dans l'assemblée du peuple. Les traductions anglaises et allemandes ont aussi interprété le terme dans ce sens, mais en se limitant plutôt à la personne qui prend la parole dans l'assemblée du peuple, et ils ont appelé l'ecclésiaste preacher ou prediger. En français, beaucoup plus modestement, on s'est contenté de transcrire le grec ecclésiaste ou de transcrire l'hébreu Kohelet. Si ce titre désigne bien une sorte de prédicateur, la question qui nous est posée est la suivante: dans quelle mesure l'écrit peut-il être tenu pour une prédication? Car s'il s'agit d'une prédication, nous aurions là une prédication très originale, une prédication très différente de celle dont nous avons l'habitude dans l'Ancien Testament. Nous avons les prédications de Moïse dans le Deutéronome. Nous avons aussi dans le livre des Proverbes les prédications de la sagesse, les conseils de bon sens qu'elle adresse aux humains et l'appel qu'elle leur adresse à vivre dans la crainte de Dieu. La prédication de Kohelet, si prédication il y a, est une prédication bien différente de celle-ci. La forme de l'écrit est beaucoup plus celle de la réflexion que de la prédication. Et même si le livre se termine par l'exhortation « Crains Dieu et observe le commandement », il est quand même assez difficile de prendre le livre pour une prédication. Du moins, la prédication sera très originale. Ainsi, le pseudonyme, car c'est un pseudonyme que se donne l'auteur, le pseudonyme reste énigmatique par rapport au contenu. On peut évidemment essayer de proposer beaucoup de solutions, mais en général, lorsque l'on est capable de proposer beaucoup de solutions, c'est qu'on est en plein brouillard et qu'on en est réduit aux hypothèses les plus habiles et les plus fantaisistes, on en est réduit à la spéculation. Et Albert et Maillot spéculent lorsqu'ils pensent à un jeu de mots entre Kaal et Kalal, maudire. À première vue, il semble que l'auteur a voulu intriguer son lecteur, qu'il a voulu le mettre en face d'un problème, d'une énigme. D'autant plus que ce recours à un pseudonyme est absolument unique dans tout l'Ancien Testament et même dans toute la Bible. Aucun auteur de l'Écriture ne recourt au pseudonyme. Les auteurs parlent toujours en leur nom propre et disent qui ils sont. Ici, il n'y a pas de nom d'auteur. Bien sûr, ce nom, ce pseudonyme que se donne l'auteur, n'est pas chez lui volonté de rester dans l'anonymat. Car le personnage qui écrit, le personnage historique qui se cache derrière le pseudonyme, se laisse très facilement découvrir. Voyez au chapitre 1er, au verset 1, déjà, dès les premiers mots, il se dit « fils de David, roi à Jérusalem ». Au verset 12, « j'ai été roi d'Israël à Jérusalem ». Au verset 16, il dit qu'il a grandi et surpassé en sagesse, ou qu'il a fait progresser la sagesse, suivant les traductions, plus que quiconque à Jérusalem. Au chapitre 2 et au verset 9, il dit qu'il est devenu plus grand que tous ceux qui avaient été avant lui à Jérusalem. Donc, il est bien clair qu'il s'agit de Salomon, l'incognito n'est qu'apparent. Et il semble que pour l'auteur, il est tout aussi important pour lui de faire connaître qui il est que de cacher son nom. Cet anonymat, il est frappant de le constater, ne concerne pas seulement l'auteur, cet anonymat que l'on constate dans le livre de Qohélète. Il concerne aussi le peuple d'Israël, qui n'est jamais nommé, sauf pour indiquer les titres du roi, roi d'Israël. Et surtout, il concerne Dieu lui-même, qui n'est jamais désigné par son nom personnel. Le nom Yahvé, le nom personnel de Dieu, nous aurons l'occasion d'y revenir. Au point où nous sommes parvenus, et qui est encore un point très élémentaire, il est difficile d'essayer d'expliquer cet anonymat apparent, mais je crois que nous pouvons au moins noter que cet anonymat correspond à une intention profonde de la part de l'auteur, puisqu'on le retrouve à divers niveaux, au niveau de l'auteur, au niveau du peuple, au niveau de la personne de Dieu. Certaines personnes ont pensé que Salomon n'était pas l'auteur du livre de l'Ecclésiaste et qu'il s'agirait d'un livre beaucoup plus tardif. Nous n'avons pas maintenant l'occasion d'examiner tous ces arguments ou d'en discuter. C'est un problème en effet sérieux et sur lequel les avis sont très partagés, même les avis des commentateurs évangéliques. Il me semble quand même qu'il y a un élément très important qu'il faut prendre en considération dans cette discussion de l'auteur. C'est le ton personnel de l'ouvrage. L'auteur dit « j'ai vu, j'ai dit, j'ai reconnu » et cette expérience personnelle est directement rattachée au personnage de Salomon. Et c'est cela qui donne tout son poids aux réflexions désabusées de l'auteur. C'est parce que c'est Salomon lui-même qui les fait. Ainsi, malgré toutes les difficultés que cela peut représenter, car cela représente un certain nombre de difficultés d'admettre que Salomon est l'auteur du livre, il me semble, quant à moi, la chose peut être discutée, évidemment, mais il me semble qu'il vaut mieux s'en tenir au témoignage interne de l'écrit qui se donne pour l'œuvre du roi Salomon. Dans l'opération, il a peut-être perdu son nom, car on ne le retrouve pas, mais il prend bien soin de préciser qu'il n'a pas perdu ses titres. Seconde énigme du livre, la structure ou le plan de l'ouvrage. Essayer de faire le plan d'un livre, n'est-ce pas une préoccupation scolaire? Ça peut l'être. Mais il me semble que lorsque l'on se trouve en face du livre de l'Ecclésiaste, le désordre est tel qu'il mérite au moins réflexion. Ce désordre a suscité les hypothèses les plus diverses et les plus contradictoires. Certains interprètes ont pensé que le livre n'était qu'un projet inachevé, un peu à la manière des pensées de Pascal. L'auteur aurait livré ses réflexions et avec l'intention de les ordonner plus tard, mais sans avoir eu le loisir de le faire. Et ainsi nous aurions un ouvrage inachevé, encore laissé dans le désordre. Une autre personne a pensé, un autre interprète a pensé que le livre de Coëlette aurait été à un moment donné un ouvrage achevé, mais que les feuillets qui composaient le livre auraient été détachés les uns des autres et puis ensuite réunis ensemble par une personne bien intentionnée, mais qui n'aurait pas reconstitué l'ordre originel. Cette hypothèse me semble assez difficile à admettre, étant donné qu'à l'époque, on écrivait plutôt sur des rouleaux que sur des livres. L'hypothèse la plus souvent reprise à ce sujet, au sujet du désordre du livre, est la suivante. Nous aurions, en face de nous, nous aurions entre les mains, un ouvrage qui aurait été remanié par plusieurs éditeurs successifs, qui aurait chacun ajouté son grain de sel à l'ouvrage. Je crois qu'avant de hasarder des hypothèses, il nous faut essayer de constater honnêtement ce qu'il en est et comment se présente la structure ou l'absence de structure de ce livre. Il me semble qu'à la lecture, j'espère que vous l'avez entamé au moins, en tout cas je vous la recommande chaleureusement la lecture du livre de l'Ecclésiaste. Il n'a que 12 chapitres, donc on peut quand même le lire dans un temps relativement bref. À la lecture, une double constatation s'impose. D'abord, il y a du désordre dans le livre, je crois qu'on ne peut pas le nier, mais aussi, il y a de l'ordre, et un ordre tout à fait remarquable. Même si les règles de composition à l'époque où écrivait Coëlette étaient très différentes des règles de composition que l'on a pu observer à l'époque classique et que l'on observe de moins en moins, même si elles étaient différentes, ces règles, elles existaient et Coëlette les a respectées. En tout cas, je crois qu'il a respecté une règle très courante à l'époque et qui s'appelle l'inclusion. Nous allons essayer de le démontrer, je crois que c'est très facile, en observant le début du livre et la fin du livre. Chapitre 1, verset 1, vous avez cette affirmation, parole de Coëlette, fils de David, roi de Jérusalem. Ensuite, verset 2, vous avez une sorte d'affirmation fondamentale, « Vanité des vanités, dit Coëlette, tout est vanité. » Et ensuite, à partir du verset 4, je laisse de côté le verset 3 qui n'entre peut-être pas très bien dans la structure d'ensemble du livre, mais à partir du verset 4, vous avez un remarquable poème sur les éléments, sur les générations. D'abord sur les générations, et ensuite sur les éléments. Le soleil se lève, le soleil se couche, le vent se dirige vers le midi et tourne vers le nord, puis il tourne encore, il reprend les mêmes circuits, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie, toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille d'entendre, etc. Maintenant, si vous observez ensuite la fin du livre, au chapitre 12. Alors ici, il y a un petit problème de numérotation avec le chapitre 12. Je ne sais pas quelle édition de la Bible vous utilisez. Est-ce qu'il y en a qui ont la Tobe? Parce que, n'est-ce pas, il y a un décalage au chapitre 12, à la fin du chapitre 11 et au chapitre 12, entre la numérotation des chapitres et des versets en français et la numérotation en hébreu. Et la Tobe a rétabli la numérotation hébraïque. Alors il peut y avoir des problèmes. Alors, je vais donner tout simplement la numérotation de second, comme c'est la plus répandue. Je pense que c'est aussi celle de Darby et d'autres versions. Je pense, je ne sais pas quelle numérotation emploie la Bible de Jérusalem. Alors, numérotation second, chapitre 12, versets 3 à 9. Vous avez ici un poème aussi. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Un poème magnifique qui se termine sur cette affirmation. Le verset 8, « Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Remarquez comme au chapitre 1er, le poème parlait des tours du soleil, des tours du vent, du cycle des générations qui viennent et qui s'en vont. Et vous avez là de nouveau un poème qui reprend ce cycle d'une manière encore beaucoup plus poétique et encore beaucoup plus tragique, et qui se termine sur le retour de la poussière à la poussière et de l'esprit à Dieu qui l'a donné. Et verset 10, que trouvons-nous ? Vanité des vanités, dit Coëlette, tout est vanité. Donc exactement, à peu de choses près, il y a une petite différence quand même, mais exactement le même refrain qu'ici. Et ensuite, au verset 11, quelques réflexions sur l'auteur lui-même, outre que Coëlette fut un sage, etc. Alors nous trouvons cette formule de style qu'on appelle l'inclusion. Vous avez ici un poème au début qui correspond à un poème à la fin de l'écrit. Vous avez une thèse ici affirmée « Vanité des vanités, tout est vanité » ou un refrain, si vous voulez, qui est repris à la fin. Et ici une introduction qui correspond, l'introduction sur l'auteur qui correspond à une conclusion sur l'auteur. Donc vous voyez une structure tout à fait remarquable. Et il y a donc là un souci manifeste de composition qui donne à tout le livre une grandeur tragique. Car vous voyez la grandeur tragique, n'est-ce pas, de cette version « Vanité des vanités, tout est vanité », le cycle des éléments, le cycle des générations, et puis ensuite le poème qui le reprend, « La terre, la poussière retourne à la poussière, l'esprit à Dieu qui l'a donné, vanité des vanités », dit Coëlette. Tout est vanité. L'unité de style dans le livre se voit aussi à l'apparition courante d'expressions particulières, vanité, poursuite du vent, quel profit, sous le soleil. Et ces expressions sont réparties d'une manière assez uniforme dans tout le livre. Et puis surtout, et là je vois encore une marque toute particulière d'un souci de composition, il y a le refrain du bonheur qui revient toujours après les conclusions négatives au chapitre 2, au verset 24 et 25. Je vous demande peut-être un exercice difficile le soir, mais enfin je pense que c'est une bonne chose déjà maintenant, puisque nous parlerons du bonheur une autre fois, d'avoir au moins vu, constaté cette résurgence de l'invitation au bonheur dans le livre. Chapitre 2, versets 24 et 25. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Chapitre 3, verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Chapitre 3, verset 22. J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ? Chapitre 5, versets 17 et 19. Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger, de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, etc. Chapitre 8, verset 15. N'est-ce pas, c'est toujours en conclusion de déception. Nous n'avons pas le temps de relire les conclusions désabusées de Coëlette, mais après cela, revient toujours le refrain de l'invitation à la joie. Verset 15, « J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. » Chapitre 9, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Et chapitre 11, verset 7, c'est l'invitation la plus longue. « La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ses années. » Et chapitre 12, « Jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Vous voyez un refrain qui revient périodiquement tout au long de l'écrit. Je ne crois pas que cette périodicité du refrain permette d'établir un plan. Ce n'est pas aussi structuré que cela. Et je crois que si l'on veut être honnête avec le livre de l'Ecclésiaste, il faut renoncer à faire un plan. Mais cette périodicité du refrain témoigne en tout cas d'un souci de composition. Et maintenant, je pose la question, chez un homme qui possède un tel art de la composition, l'art que l'on peut trouver ici dans cette forme de l'inclusion et aussi dans le refrain périodique du bonheur, chez un homme qui possède un tel art, le désordre ne serait-il pas intentionnel ? Je crois qu'il y a une volonté délibérée de la part de l'auteur de donner à beaucoup de ses réflexions ce ton décousu qui correspond si bien à ce qu'il veut dire. Essayez d'imaginer un ecclésiaste systématique, à l'organisation parfaite, premièrement, deuxièmement, troisièmement, petit a, petit b, grand a, grand b, conclusion, ce ne serait plus l'ecclésiaste. Coëlette avoue que le sage ne peut pas trouver le fin mot des choses. Même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Et l'activité de sagesse, cette activité de l'homme, correspond à sa volonté d'organiser le réel, de le cataloguer, d'en donner une présentation systématique. Et à l'époque, un des exercices favoris de la science, c'est de faire des listes d'animaux, des listes d'objets, des listes de plantes. Et vous avez également cette forme particulière d'expression sapientiale qui est le proverbe numérique, où l'on dit il y a une chose, il y a trois choses que l'Éternel a en horreur, et même quatre. Le propre de la sagesse, c'est de classer, c'est de cataloguer, c'est d'organiser. Et voici que chez Coëlette, la sagesse échoue devant un monde qui résiste à la volonté organisatrice de l'homme. Et chez lui, le désordre n'est pas maladresse. Il est sincérité. Le désordre, s'il y en a, est l'aveu d'une faillite. L'aveu d'une certaine impuissance. Mais en constatant ce désordre et en essayant de l'expliquer, nous ne devons pas oublier cet ordre tout à fait remarquable et impressionnant qui témoigne, me semble-t-il, il restera à le prouver, mais qui témoigne de la souveraineté de Dieu. Car si l'homme n'arrive pas à maîtriser le réel, Dieu, lui, reste souverain au-dessus de ce réel qui plonge l'homme dans la perplexité et dans le désespoir. Car le désordre est encadré. Vous voyez que l'ordre se trouve au début et à la fin. Le désordre est encadré par un ordre supérieur qui le borne et qui le limite. Cet ordre de Dieu qui règle le cours des choses, qui appelle une génération après une autre, qui conduit la marche du soleil, la marche des vents, la marche des fleuves, le cours des fleuves. Le désordre est encadré par l'ordre supérieur de la volonté de Dieu. Et ainsi le livre peut se terminer, non pas sur une constatation désabusée, mais sur l'invitation pressante à craindre Dieu. Ainsi, me semble-t-il, l'énigme de la structure du livre peut être résolue. Et elle peut nous permettre de constater l'art de Coëlette. Car l'art de la composition, ce n'est pas de trouver les meilleures formes, mais c'est de trouver ou les plus belles formes, mais c'est de trouver les formes qui conviennent le mieux à ce que l'on veut dire. Et lorsqu'on observe la structure de Coëlette, du livre de Coëlette, je crois que l'on doit admettre que sa structure est parfaitement adaptée à son contenu. Coëlette a réalisé une harmonie remarquable dans la désharmonie entre le fond et la forme. Il l'a réalisé avec beaucoup de finesse et de sincérité. Maintenant, venons-en à l'énigme la plus importante, celle du sens. Et l'énigme du sens se présente sous la forme suivante, la question suivante: que fait ce livre dans la Bible? Dès l'Antiquité, les docteurs juifs ont été partagés à son sujet. Certains disaient qu'il ne faudrait pas laisser ce livre dans le canon, dans l'ensemble des livres qui composent la parole de Dieu. D'autres disaient par contre qu'il fallait l'y maintenir. Et il y a même eu des discussions si âpres et si vives qu'il a fallu une décision pour bien attester que le livre devait être maintenu. Et dans l'interprétation de ce livre, très tôt, les docteurs juifs ont cherché à atténuer certaines affirmations qui leur paraissaient par trop choquantes. C'est le cas, par exemple, du Targum, c'est-à-dire du commentaire juif de l'Ancien Testament, le Targum de Coëlette, qui dit, par exemple, à propos de Coëlette 1, verset 3, c'est l'affirmation: quel profit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Le Targum ajoute: quel avantage lui revient-il, excepté son intérêt pour la loi, pour recevoir une pleine récompense dans le monde à venir? Un exemple aussi d'interprétation de Coëlette 9, verset 7: va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à tout ce que tu fais. Il s'agit ici, non pas de la description du bonheur terrestre, mais de la description de la récompense que recevra le juste dans le paradis, dans le jardin d'Éden. De même, chapitre 8, verset 15: il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et qu'à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Commentaire de ce verset: l'homme doit pratiquer la Torah, c'est-à-dire obéir à la loi de Dieu, et faire de bonnes œuvres pour mériter la vie éternelle. Chapitre 3, verset 19. Le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour un même sort. Commentaire, le sort de l'homme pécheur est le même que celui de la bête. Ainsi, cette interprétation du Targum vise surtout à rendre le texte acceptable. Et la technique qui est la plus employée, c'est celle qui consiste à transposer toutes les affirmations dans le domaine spirituel, sans se préoccuper beaucoup de ce que l'auteur a voulu dire et de ce qu'il dit en fait, littéralement. On lui prête toujours a priori une attention pieuse. Alors il me semble qu'avec de tels procédés, on pourrait aussi incorporer Voltaire à l'Écriture sainte et le trouver très édifiant. Cette voie ouverte généreusement par les commentateurs juifs a été aussi suivie par les premiers commentateurs chrétiens. Le grand théologien Jérôme, traducteur de la Bible, a écrit un commentaire de l'Ecclésiaste destiné à une jeune personne qui s'appelait Blésila, afin de l'inciter au mépris de ce siècle et pour qu'elle tienne pour néant tout ce que l'on découvre dans ce monde. Ainsi donc, pour Jérôme, le livre de l'Ecclésiaste est une invitation puissante à la vie monastique. Et, n'est-ce pas, il peut se justifier dans une certaine mesure, n'est-ce pas, son opinion peut se justifier par l'affirmation sans cesse répétée, tout est vanité. Tout est vanité dans le monde. Donc, il faut se retirer du monde, vivre à l'écart, dans la présence de Dieu, qui seul est profitable. Évidemment, lorsqu'on a interprété ainsi les affirmations « tout est vanité et poursuite du vent », on se trouve en face de l'invitation à la joie, et c'est là que le bât blesse et qu'on se demande ce que l'on va en faire. Jérôme se montre beaucoup plus préoccupé que les commentateurs juifs du sens littéral des Écritures, car c'est un commentateur honnête qui cherche toujours à établir d'abord le sens littéral du texte. Mais une fois qu'il a trouvé le sens littéral du texte, ce sens, il le trouve embarrassant, parce qu'il le trouve peu intéressant, peu édifiant. Et alors il cherche une interprétation spirituelle. Voilà une citation du commentaire de Jérôme sur les versets 24 et 25 du chapitre 2. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Cela aussi vient de la main de Dieu. Verset 26. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Alors voilà le texte. Et maintenant, qu'en dit Jérôme? Il dit, après avoir expliqué ce que dit Qohelet, il dit, voici en passant le sens littéral de tous ces versets, de peur qu'on nous accuse de mépriser comme très bas le sens propre et naturel des Écritures pour nous attacher à des applications plus riches et plus spirituelles. Je n'ai garde de mépriser la simplicité de ce sens, du sens historique. Quoique je puisse demander quel grand bien et quel don c'est d'aimer avec passion ses propres richesses, d'attraper à la dérobée quelques petits plaisirs passagers, ou si l'on veut, de faire ses délices des travaux d'autrui et de regarder comme un don du ciel de se faire heureux du malheur des autres. Donc il ne veut pas le mépriser, mais enfin il le méprise quand même, à mon avis. Manifestement, Jérôme est gêné. Il ne comprend pas le sens de cette invitation à la joie. Et parfois, il l'interprète comme la joie de la communion avec le Christ. Et dans ce sens, on peut imaginer l'usage qu'il fera du pain et du vin, dont il est question, mange ton pain avec joie et bois gaiement ton vin. Jérôme l'appliquera à la Sainte Cène. Et de même, lorsqu'il est question au chapitre 1er et au verset 5, du soleil qui se lève, du soleil qui se couche, Jérôme fera valoir qu'il y a un autre soleil qui se lève mais qui ne se couche jamais. Jérôme emploiera aussi d'autres moyens pour résoudre certaines difficultés. Il dira, par exemple, que à un moment donné, Coëlette s'est trompé, mais qu'ensuite, il a rectifié le tir. Par exemple, chapitre 3, verset 21, où Coëlette a dit ceci, une affirmation un peu embarrassante, « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ?» Alors, Coëlette ici, ce serait, si l'on veut tromper, et il aurait rectifié son opinion au verset 9 du chapitre 12, en disant « L'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Je cite uniquement ces exemples. Pour l'instant, il nous faudra interpréter ces textes, mais je réserve cela pour plus tard. Au Moyen-Âge, toujours, après Jérôme, qui est plutôt un commentateur de l'Antiquité, mais au Moyen-Âge, on suit les traces de Jérôme, et il y a aussi d'autres solutions qui sont proposées. En particulier, il y a un nommé Salonius qui propose de faire de l'ecclésiaste un dialogue. Un dialogue entre un maître et son élève. L'élève pose des questions maladroites et le professeur répond avec sagesse. Quoi qu'il en soit, à cette époque, me semble-t-il, la ligne générale de l'interprétation s'appuie très fortement sur le « tout est vanité ». Pour recommander le mépris du monde. À l'époque de la Réforme, il y a un très net regain d'intérêt pour le sens littéral de l'Ecclésiaste. Le titre d'un commentaire paru en 1533, n'est pas un commentaire très important, il est écrit par un illustre inconnu, mais il dit ceci, pour préciser le ton de son commentaire, exempt d'allégorie, le plus près possible du sens littéral. Donc le but, c'est de retrouver le sens littéral et de le comprendre. Peut-être le refus de l'idéal monastique à cette époque permet-il de comprendre d'une façon beaucoup plus positive les exhortations au bonheur terrestre. Luther, par exemple, dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, dit que la création est bonne. Dieu a donné le monde à l'homme de telle sorte qu'il peut l'utiliser avec joie et contentement, mais il ne lui a pas donné la possibilité de le gouverner. L'homme doit mettre sa volonté au-dessous de celle de Dieu et il doit recevoir joyeusement ce que Dieu lui donne. Nous avons donc là une tentative très intéressante de saisir le message de Coëlette dans sa totalité et dans sa littéralité, à la fois description de la vanité, mais aussi invitation à jouir de la vie, mais dans la dépendance d'un Dieu souverain. Ainsi, le message est reçu par la plupart des commentateurs de l'époque de la Réforme. Il est reçu dans sa totalité et aussi dans son cadre biblique, qui est celui de l'homme, créature de Dieu, mais créature déchue. Si l'on poursuit l'histoire de l'interprétation de l'Ecclésiaste, Avec l'avènement de la critique biblique au XVIIe et surtout au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle, vont surgir de très nombreuses théories. Je ne vais pas vous les énumérer. Je ne vous veux pas trop de mal parce qu'on risquerait d'y passer toute la nuit. Je voudrais simplement essayer de déterminer quelle est la tendance générale de l'interprétation amorcée par le mouvement critique du XVIIIe siècle. Cette tendance générale, c'est d'accentuer les particularités de Coëlette, les particularités de ce livre, par rapport à l'ensemble du message de la Bible. Coëlette est un contestataire, quelqu'un qui critique les solutions religieuses admise au sein du peuple d'Israël et qui, à l'occasion, critique le message du reste de l'Écriture. Coëlette est le témoin d'une époque de décadence de la foi. Il est le témoin d'une période où la foi est en crise après l'exil. Il est aussi le témoin de l'influence des philosophies païennes sur la foi du peuple d'Israël, ces philosophies qui sapent à la base la foi du peuple de Dieu. Et en particulier, on a essayé de noter l'influence de la philosophie grecque naissante, philosophie grecque dont on trouverait des traces chez Coëlette. Voilà sur quoi on insiste dans l'interprétation. Mais alors, dans ce cas, ce qu'on ne comprend plus, ce sont les paroles pieuses. Comment les intégrer à la pensée de l'auteur? Je vous en donne quelques exemples. Chapitre 12, verset 1. Sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Chapitre 12, verset 15. Crains Dieu et observe le commandement. Chapitre 8, verset 12. Quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et aussi quelques affirmations positives sur la sagesse. Chapitre 7, verset 11. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Nous trouvons donc face à un problème absolument symétrique de celui que rencontraient les commentateurs du Moyen-Âge. Une partie et une partie importante de la matière résiste à l'interprétation. Et je dois dire honnêtement que les solutions qui sont proposées ne sont guère plus respectables que celles qui étaient proposées au Moyen-Âge. Comment fait-on pour expliquer ces paroles pieuses? On suppose des corrections successives. Première correction par un sage. Hakam en hébreu, qui pour défendre la sagesse traditionnelle outragée par Coëlette vient ajouter quelques bonnes paroles réconfortantes. Deuxième correction, deuxième édition de Coëlette par un homme pieux, un chassid, affligé par toutes ces paroles malheureuse contre Dieu et qui rajoute quelques bonnes paroles pieuses qui feront du bien aux âmes sensibles. Et c'est ainsi ce que l'on appelle une solution, et on a ainsi ce que l'on appelle une solution littéraire du problème. Mais cette solution littéraire n'a aucun fondement, car le texte, nous l'avons dans son entier, sans coupure et sans adjonction. Et ce genre de solution ne fait qu'ériger en système l'incompétence de l'interprète. Et plus l'interprète est incompétent, et plus son hypothèse sera compliquée. Il nous faut prendre en compte tout ce que dit l'auteur et tâcher de le comprendre. Et d'ailleurs, je crois que ces dernières années, on en revient un peu de ces hypothèses littéraires sur la composition de l'Ecclésiaste. C'est le cas, par exemple, des ouvrages de Daniel Liss ou de Maillot. Et on interprète davantage Coëlette dans le cadre de la pensée biblique. On en revient. On revient de certains excès. Mais, à mon sens, encore trop timidement. Après cet examen rapide des diverses tentatives d'interprétation de l'Ecclésiaste, quelles sont les conditions d'une interprétation satisfaisante de l'Ecclésiaste, conditions que nous allons essayer de réaliser dans les prochaines études. Je voudrais essayer de résumer ces conditions par deux affirmations très simples. Prendre l'Ecclésiaste comme il est et le prendre là où il est. Le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire dans son sens littéral et sans vouloir sortir trop vite des problèmes qu'il pose. Car lorsque l'on se trouve en face du livre de l'Ecclésiaste, on ne se trouve pas seulement en face de problèmes d'interprétation, mais je crois qu'on se trouve aussi en face des problèmes réels qui se posent à l'homme. Non pas seulement les problèmes que pose l'Ecclésiaste, mais les problèmes que pose la vie. Et la tentation du chrétien, ce serait de vouloir résoudre, dans sa lecture de Coëlette, de vouloir résoudre rapidement toutes les questions en disant qu'il a déjà la solution. Coëlette est un livre honnête, d'une honnêteté tragique. Et ce livre mérite une interprétation honnête, c'est-à-dire une interprétation qui ne soit pas superficielle. Je crois qu'il faut, avec Coëlette, aller au fond des problèmes. Et si nous allons avec lui au fond des problèmes, je crois que nous serons aussi récompensés, parce que c'est au fond des problèmes que Dieu donne la solution. Mais il ne faut pas toujours poser a priori la solution et traiter ainsi le livre comme quantité négligeable. Dans notre foi, à l'égard de Dieu, nous courons deux dangers. Le danger du manque de foi. Nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous ne lui faisons pas confiance dans ce qu'il nous dit, dans ce qu'il nous promet. Et l'autre danger, c'est la superficialité de la foi. Et nous avons ainsi une foi qui ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais qui consiste à les ignorer. C'est la foi de l'autruche, et cette foi ne mène pas très loin. Coëlette, par contre, nous ouvre les yeux. Et il nous dit, voilà où tu es. Et il nous faudra bien en tenir compte. L'exercice n'est pas facile, ni même nécessairement agréable. Mais la réalité non plus n'est pas facile, et elle n'est pas non plus toujours agréable. Et c'est en face d'elle que nous place Coëlette. Il dissipe les illusions, même les illusions religieuses, nous le verrons. Il nous faut donc prendre tout en compte, et tâcher sinon de comprendre Coëlette, tout au moins de l'entendre. Car la volonté de maîtriser cette pensée de Coëlette, de la systématiser, conduit au contresens de Jérôme ou des critiques modernes. Nous devons donc approcher le livre d'une manière plus modeste et plus honnête. Et puis deuxième affirmation, prendre le livre là où il est, c'est-à-dire dans la Bible. c'est-à-dire parmi les livres que Dieu a confiés à son peuple, puis ensuite à nous, pour que nous connaissions sa parole. Ce livre n'est pas égaré dans l'Écriture, mais il se trouve bien à sa place. Et il nous faut, avec patience et avec honnêteté, rechercher la cohérence profonde qui existe entre l'Ecclésiaste et le reste de l'Écriture. Cette cohérence ne doit pas être recherchée au détriment de la compréhension objective du texte. Mais avec ses couleurs, avec ses aspérités, il ne faut pas atténuer les couleurs de Qohélète ou vouloir le raboter pour qu'il n'y ait plus d'angle, mais au contraire, avec toutes ses couleurs et avec toutes ses aspérités, il nous faut comprendre que le livre fait partie de la Bible. Il ne faut pas exagérer les contrastes au point de le mettre en marge de l'Écriture. Mais essayez toujours, malgré les difficultés que cela peut représenter, de maintenir ces deux données, l'Ecclésiaste tel qu'il est et là où il est. Là où il est, ça signifie aussi pour le chrétien d'accorder à ce livre une autorité divine, de ne pas le prendre de haut en disant « moi je suis au-dessus de l'Ecclésiaste », comme l'œuvre d'un Salomon vieilli et déchu qui aurait raté sa vie et qui n'aurait plus rien à nous apprendre à nous qui réussissons si bien notre vie, mais au contraire comme un message de Dieu, un message très spécial. Bien sûr, c'est une révélation tout à fait inattendue de la part de Dieu, car nous avons l'habitude de la révélation de Dieu par la bouche de ses prophètes, ainsi parle l'Éternel, ou de la révélation de Dieu exprimée sous la forme d'une loi que Dieu donne à son peuple, ou de la révélation de Dieu sous la forme de conseils qu'un sage peut donner aux humains. C'est un écrit très spécial, très personnel, où l'auteur ne parle pas au nom de Dieu, il ne dit pas « Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela », il dit « Non, moi j'ai dit, moi j'ai vu ». C'est le moi de l'expérience personnelle. Mais à travers cette expérience, Dieu a voulu nous faire connaître sa volonté. Heureusement, l'Ecclésiaste n'est pas toute la révélation de Dieu, car nous serions bien à plaindre si nous n'avions que cela, mais il est un élément que Dieu a jugé indispensable. Et dans la grande fresque biblique, le Vanité des Vanités a aussi son importance. D'ailleurs, vous voyez qu'il a été repris par Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. La création tout entière a été soumise à la vanité. Et tant que la création est soumise à la vanité, le livre de l'Ecclésiaste conserve toute son actualité. Ainsi, Dieu ne se contente pas dans l'Écriture de nous parler ex cathedra ou ex cœlo, mais il nous parle aussi du sein de l'expérience humaine. Il ne se contente pas de nous dire de haut, tu es un pécheur. Mais il nous le montre aussi de l'intérieur, par l'expérience tragique du sage qui échoue. Dans l'Ecclésiaste, l'homme se regarde. L'homme regarde le monde. Et toutes les illusions lui sont ôtées, ou du moins, il constate à quel point les illusions sont grandes. Et le fait que Dieu, notre Dieu, est incorporé au nombre des écrits sacrés, un livre si réaliste, montre bien que notre Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens irréalistes qui fuient la réalité. Pour l'instant, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous ne pouvons pas en dire plus, car il nous faut étudier d'une manière plus sérieuse les thèmes que développe l'auteur. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ces prochains soirs, en parlant d'abord de la vanité, ensuite du bonheur, puis de la vie et de la mort, et enfin de Dieu.